Afrique du Sud, d'un syndicat rouge à un parti rouge. Nous publions ci-dessous la traduction d'un article de la revue trotskiste britannique Class Struggle, publié par nos camarades de Workers' Fight, numéro 104, printemps 2015. L'expulsion du syndicat national des ouvriers de la métallurgie d'Afrique du Sud, NUMSA, et de ses 338 000 adhérents des rangs de la principale confédération syndicale du pays, COSATU, Congrès des syndicats sud-africains, le 7 novembre 2014, n'a surpris personne. Cela faisait des mois, voire des années, que les commentateurs parlaient de tensions dans les rangs de COSATU. Mais une telle rupture publique entre deux organisations appartenant au mouvement ouvrier officiel a néanmoins provoqué un choc. Ces implications politiques sont importantes car il s'agit d'une scission dans la confédération syndicale qui participe au gouvernement du pays en tant que troisième composante de l'alliance tripartite avec le Parti communiste sud-africain, SACP, et le Congrès national africain, ANC, et dont les structures se confondent depuis 20 ans avec celles de ses deux partenaires. NUMSA est le plus important et le plus combatif des 18 syndicats de COSATU qui compte 2 200 000 membres. C'est un syndicat qui se proclame « rouge », entre guillemets, se revendique des principes du marxisme-léninisme, entre guillemets, et a le soutien officiel de 7 ou 8 autres syndicats affiliés à COSATU. Derrière NUMSA, un peu moins d'1 million de travailleurs syndiqués se retrouvent ainsi dans les fêtes en opposition ouverte avec la direction de COSATU. Mais NUMSA a aussi le soutien moral de centaines de milliers de travailleurs qui se sentent abandonnés tant par leur direction syndicale que par l'ANC. Il peut certainement compter sur la solidarité des 50 000 mineurs qui, après avoir été trahis par le Syndicat National des Mineurs, NUM, affilié à COSATU, avaient rejoint l'Association Syndicale des Mines et de la Construction, AMCU, avant même le massacre des grévistes du Platine à Marikana en 2012. Parmi ceux qui expriment leur solidarité avec NUMSA, il y a également NACTU, Conseil national des syndicats, une confédération syndicale rivale de COSATU dont on parle peu mais qui existe depuis 1985 et à laquelle l'AMCU est affiliée. Cette rupture appelle un certain nombre de questions. Pourquoi les dirigeants de COSATU ont-ils décidé d'excommunier NUMSA dans un tel contexte? Peuvent-ils s'en tirer sans dommage? Et quelles seront les conséquences pour la classe ouvrière sud-africaine? La rupture de NUMSA avec l'ANC. La raison principale de cette exclusion a été la décision de NUMSA de rompre avec l'ANC lors d'une conférence spéciale de délégués qui s'est tenue le 20 décembre 2013, tout juste 4 mois avant les élections législatives de 2014 et seulement 15 jours après la mort de cette icône de l'ANC qu'était Nelson Mandela. Les porte-paroles de NUMSA ont justifié cette rupture en invoquant les multiples domaines dans lesquels l'ANC avait été trop loin, entre guillemets. Sa responsabilité dans le massacre des grévistes de la mine de platine Lone Mine de Marikana en 2012, les scandales de corruption qui l'ont touché, sa politique économique décrite comme « néolibérale », entre guillemets, et enfin le fait que, selon les délégués de NUMSA, l'ANC a depuis longtemps renoncé aux objectifs de la Charte de la Liberté de 1955, le programme nationaliste et réformiste du mouvement de libération nationale anti-apartheid en général et de l'ANC en particulier. Pourtant, bien sûr, pour une organisation comme NUMSA, qui se présente comme un « syndicat socialiste rouge », entre guillemets, la Charte de la Liberté n'a rien de révolutionnaire. Mais comme ses porte-paroles le soulignent, bien des objectifs de la charte qui seraient réalisables dans un cadre capitaliste n'ont même pas vu un début de réalisation. Ironie de l'histoire, l'ANC a promis cette année, à l'occasion du 60e anniversaire de la charte, de renouveler son engagement de réaliser ses objectifs. Mais même dans les limites des plus modérées fixées par cette charte, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Par exemple, après 20 ans de règne de l'ANC, seulement 7% des terres ont été reprises à leurs propriétaires blancs, ouvrez les guillemets, pour être redistribuées à ceux qui la travaillent, fermez les guillemets, pour reprendre les termes de la charte. Bien entendu, les gens n'ont pas le droit d'occuper des terres là où ils le désirent, comme le promettait la charte. C'est pourquoi on a assisté à des occupations illégales, entre guillemets, de terres ces derniers temps. Il n'y a pas de salaire minimum. Les courtiers de main-d'œuvre, agences de recrutement privées, sont là pour faire en sorte que l'objectif d'un, entre guillemets, salaire égal pour un travail égal, fermez les guillemets, ne soit pas réalisé. Et, entre guillemets, les richesses minérales du sol, les banques et l'industrie monopolistique, fermez les guillemets, ne sont pas devenues la propriété du peuple tout entier, entre guillemets, comme le promettait la charte. Bien sûr que non. Noumsa a également annoncé, lors de sa conférence spéciale de décembre 2013, qu'il étudiait la possibilité de lancer un nouveau parti ouvrier dans la mesure où il considère que la faillite morale et politique de l'ANC et du SACP rend ces partis incapables de représenter les intérêts des pauvres et de la classe ouvrière. Et ce fut probablement là le fait le plus important de cette conférence. Depuis, Noumsa a fait ce qu'il s'était engagé à faire, comme on va le voir. Hormis la rupture de Noumsa avec l'ANC et sa décision de promouvoir la construction d'un nouveau parti, Kosatu avait d'autres raisons « officielles » entre guillemets, d'exclure Noumsa. Par exemple, Noumsa était accusé d'avoir débauché les membres de syndicats rivaux. Mais en fait, il avait déjà demandé au ministère du Travail l'autorisation d'étendre son champ de recrutement à d'autres secteurs, autorisation qui lui fut effectivement accordée juste un mois après son exclusion. Enfin, il y a les rivalités de factions au sein de Kosatu. La direction de Kosatu est aujourd'hui dominée par des partisans farouches, pour l'instant en tout cas, du gouvernement Zuma et par des membres de son mentor politique, le très stalinien SACP. Cette faction est dirigée par Sdoumo Dlamini, un ancien infirmier membre du NEAU, syndicat national de l'éducation, de la santé et des secteurs connexes, qui est président de la Confédération, et par son bras droit, Franz Baleni, le leader stalinien du syndicat des mineurs NUM. Ce syndicat revendique toujours 300 000 membres, bien qu'il ait payé chèrement sa trahison des mineurs du platine, à la fois avant, pendant et après le massacre de Marikana. Baleni siège au comité central du SACP. Sdoumo Dlamini est le secrétaire général de l'ANC. Guido Mantashe, un ancien secrétaire général du NUM, siège avec un autre pilier du NEAU, Fikile Majola, au bureau politique de 11 membres du SACP. Et pour l'instant, leur soutien à tout ce que fait le gouvernement est sans faille. Ces fidèles de Zuma et du SACP avaient tenté, en 2013, de se débarrasser définitivement du secrétaire général de Kosatu, Swelin Zima Vavi, qui était, à leur goût, trop critique envers le gouvernement. Ils avaient fabriqué contre lui une accusation de viol, charge qui fut retirée par la suite. Il avait également été faussement accusé de pratiques frauduleuses lors de la vente de l'ancien siège de Kosatu. Les accusations de fraude furent écartées, mais Vavi avait admis qu'il avait eu des relations sexuelles consensuelles avec une employée. Il fut suspendu pour cela, ce qui avait provoqué des tensions entre les syndicats partisans et adversaires de Vavi, en d'autres termes, entre les syndicats qui étaient prêts à se dresser contre la corruption du gouvernement bourgeois de l'ANC, entre guillemets, comme le décrivent les leaders de Noumsa, et ceux qui étaient décidés à le défendre à tout prix. Du fait des profondes rivalités internes au sein de Kosatu, Vavy continua à être menacé d'exclusion, tandis que son cas faisait la navette entre les tribunaux et les médiateurs autoproclamés de l'ANC. Noumsa a toujours défendu Vavy, ce qui constituait une autre transgression impardonnable, même si Vavy a finalement été réintégré le 7 avril 2014, juste avant les élections législatives. Mais ensuite, Vavy se rendit coupable d'un autre méfait, entre guillemets. Au lieu de déclarer explicitement son soutien à l'alliance ANC-SACP, comme l'avaient toujours fait les leaders de Kosatu dans le passé, il ne prit pas position. S'il n'avait pas tant tenu à garder son poste à la direction de Kosatu, peut-être aurait-il osé ouvrir la bouche et dire ce que tant de travailleurs pensaient. Il ne le fit pas. De même qu'il s'abstint d'assister à la réunion où fut prononcée l'expulsion de Noumsa et que, après cette expulsion, il se cantonna dans une politique équivoque, disant que oui, bien sûr, il était contre cette expulsion, mais que, quand même, Noumsa avait mal agi en chassant sur les territoires d'autres syndicats. Il faut également rappeler que Vavy avait adopté une position tout aussi ambiguë sur une question bien plus importante. Après le massacre de Marikana, il s'était refusé à condamner la police, le gouvernement, l'ANC ou le NUM, se contentant de stigmatiser les conditions d'existence des mineurs. Cela lui avait valu des critiques à l'époque, mais il n'avait jamais corrigé sa position par la suite. Non sans ironie, Vavy avait déjà mis de l'eau dans son vin vis-à-vis de Zuma et compagnie lorsqu'il fut suspendu par la direction de Kosatu. Et pourtant, c'est malheureusement ce même Vavy que le secrétaire général adjoint de Noumsa, Karl Kloot, aimerait voir à la présidence de l'Afrique du Sud, selon les propos qu'il a tenus lors d'une interview sur une radio locale. Le processus qui devait aboutir à l'expulsion de Noumsa occupa une bonne partie de l'année 2014. Diverses personnalités représentant du gouvernement, du SACP et de l'ANC furent invitées à faire fonction d'arbitre. Même le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, y alla de sa médiation, ce qui fit un beau scandale parmi les membres de Noumsa pour des raisons dont nous parlerons plus loin. Le congrès extraordinaire, requis par les statuts de Kosatu en cas d'expulsion d'un syndicat affilié, fut bien réclamé par 9 syndicats de la Confédération, mais il ne fut jamais convoqué. En d'autres termes, l'offensive de la direction de Kosatu contre Noumsa était anti-statutaire, entre guillemets. Mais comme la seule contre-offensive qui lui fut opposée resta sur un terrain purement légal, elle refusa de faire marche arrière. Mieux vaut moins, mais mieux. La confrontation finale des 7 et 8 novembre 2014 eut donc aussi pour cadre cette réunion spéciale, anti-statutaire, entre guillemets, du Comité exécutif central, CEC, de la Confédération, au lieu du congrès extraordinaire qu'auraient exigé ses statuts. L'expulsion de Noumsa y était jouée d'avance. Néanmoins, le secrétaire général de Noumsa, Irvin Jim, choisit de se montrer plus diplomate que jamais, développant devant le comité un argumentaire en faveur de l'unité de la Confédération pendant plus de 3 heures. Néanmoins, à l'aube du lendemain, 33 membres du comité votèrent pour l'exclusion et 24 contre. Noumsa était désormais hors de Kosatu. Aujourd'hui, la ligne de démarcation entre les deux tendances qui s'opposent parmi les leaders du mouvement ouvrier et public est peut-être définitive. D'un côté, les collaborateurs et les vendus, entre guillemets, qui contrôlent pour le moment Kosatu, et de l'autre, les vrais révolutionnaires, entre guillemets, de Noumsa et de 7 ou 8 plus petits syndicats. Ces alliés de Noumsa sont dirigés par FAVU, le syndicat des travailleurs de l'agroalimentaire, avec près de 114 000 membres. En fait, même s'il est resté discret à ce sujet, FAVU avait également décidé, lors d'un congrès de 3 jours réuni en février 2014, de ne pas donner la consigne de voter pour l'ANC. Les autres syndicats solidaires de Noumsa sont le syndicat des travailleurs du commerce, de l'habillement et assimilé d'Afrique du Sud, SAKAVU, avec 107 000 membres, le syndicat des travailleurs de la communication, CWU, 18 000 membres. Le syndicat des travailleurs de l'État et assimilés d'Afrique du Sud, SASAWU, 144 000 membres. Le syndicat des travailleurs du secteur public et assimilés d'Afrique du Sud, PAWUSA. L'Organisation démocratique du personnel infirmier d'Afrique du Sud, DENOSA, 72 000 membres, et le syndicat des footballeurs sud-africains, SAFPO. Il y a aussi le cas particulier d'un huitième syndicat, le syndicat des travailleurs municipaux, SAMU, 180 000 membres. Au départ, il avait soutenu NUMSA, mais au moment du vote sur son expulsion, trois des quatre délégués de SAMU ignorèrent leur mandat et se rangèrent dans le camp adverse. Néanmoins, nombre de sections locales de SAMU, comme celle de la province du Cap-Oriental, continuent à soutenir NUMSA. Une déclaration conjointe en date du 13 novembre 2014, signée par les sections de la province du KwaZulu-Natal, de Fawu, de DENOSA, de PAWUSA et de NUMSA, donne une idée de leur humeur. Après avoir décrit la situation économique désastreuse des travailleurs, elle ajoute, ouvrez les guillemets, « Nous sommes par conséquent un peuple furieux. Le nombre de manifestations par habitant est probablement le plus élevé au monde, avec 1882 manifestations violentes selon les derniers chiffres de la police, en fait il y en a eu 2000 en 2014, dans lesquelles il semble que ce soit la police qui verse le plus souvent le sang de nos travailleurs. Dans ces trois dernières enquêtes annuelles, le Forum économique mondial a classé nos travailleurs comme étant les plus furieux de la planète. Cette année, PricewaterhouseCoopers a estimé nos milieux d'affaires comme étant les plus corrompus du monde. » Fermez les guillemets. Ils ajoutent que Kosatu a été paralysé par sa servilité politique envers le gouvernement et que, ouvrez les guillemets, pour dire les choses clairement, cette paralysie a conduit les travailleurs à se détourner de Kosatu. Lorsque les travailleurs ont été massacrés à Marikana et en grève dans le Platine pendant 5 mois, lorsque des grèves sauvages à répétition ont éclaté à travers le pays, lorsque les travailleurs se sont battus pour un salaire décent à 2 dirhams, il s'agit des grèves de travailleurs agricoles de 2012-2013, et plus récemment, lorsqu'ils se battent comme ils le font aujourd'hui dans les services postaux, où était Kosatu? Comme l'a fait remarquer Zwelin Sima Vavi, il y a trop de dirigeants parmi ceux des syndicats affiliés à Kosatu qui sont eux-mêmes bénéficiaires du nouvel apartheid économique. Ils n'ont pas le courage de changer les relations de pouvoir. Fermez les guillemets. Alors aujourd'hui, la lutte se mène sur deux fronts. Il y a d'un côté la lutte pour l'unité syndicale contre les partisans du gouvernement dans le mouvement ouvrier, et de l'autre, il y a la lutte pour un nouveau parti ouvrier susceptible de faire retrouver à la classe ouvrière la voie de la révolution dont elle a été privée par le règlement politique qui marqua la transition après la fin de l'apartheid en 1994, une révolution sociale destinée à, pour citer le programme de NUMSA, exprimer nos objectifs communistes, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Dans un premier temps, NUMSA était prêt à accepter son exclusion de Kosatu, parce que bien trop d'énergie et de temps avaient été déjà gaspillés dans une bataille juridique perdue d'avance. D'abord contre la menace d'exclusion de Vavi, puis contre celle visant NUMSA. C'était l'opinion exprimée par le secrétaire général adjoint de NUMSA dans une interview de décembre 2014. Mais, allié de NUMSA, soucieux avant tout de restaurer l'unité de la Confédération, tenait à poursuivre les recours juridiques, ce qui fut fait, de même que demeure à l'ordre du jour l'exigence d'un congrès extraordinaire de Kosatu pour statuer sur l'expulsion de NUMSA. Ouvrez les guillemets, « Il peut y avoir de Kosatu sans NUMSA », dit le chef de file du Fawu, Katishi Masemola. Mais il ajoute aussi que, si nécessaire, il pourrait y avoir une nouvelle confédération. L'histoire de NUMSA. Les membres de NUMSA avaient pris la décision collective de rompre avec l'ANC tout juste 15 jours après la mort de Nelson Mandela, le leader légendaire de l'ANC, et de la lutte contre l'apartheid. Les pleurs et les lamentations générales, même parmi de nombreux membres de NUMSA, ne les ont pas dissuadés de faire le choix de cette rupture historique avec le passé. Cela dit, la plupart d'entre eux réalisent aujourd'hui que l'ANC et le SACP ont cyniquement tourné le dos à l'essentiel des aspirations sociales pour lesquelles ils étaient censés lutter et que ce que ces partis appellent le pouvoir de la majorité noire n'est que le pouvoir du capitalisme avec une exploitation, une pauvreté et une misère sociale à peine atténuée par la disparition de l'apartheid. De sorte que, 20 ans après la transformation en douceur, entre guillemets, du système de l'apartheid en un régime dirigé par l'ANC sous l'égide de Mandela, sans toucher aux institutions étatiques en place, le seul héritage, entre guillemets, des décennies de lutte passée est le gouvernement corrompu et assassin de Jacob Zuma. Car n'est-ce pas ce gouvernement qui a donné le feu vert au massacre des grévistes de la mine de platine Lonmin de Marikana en 2012 ? Et n'est-ce pas Cyril Ramaphosa, aujourd'hui vice-président de Zuma, qui, plus que tout autre, a du sang sur les mains parce qu'il était à la fois haut responsable de l'ANC à l'époque, gros actionnaire de Lonmin et l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays ? En effet, ce massacre a été sans aucun doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour une très grande partie de la gauche sud-africaine et de ses militants syndicaux. Le fait de choisir son camp après Marikana a, en quelque sorte, séparé le bon grain de l'ivraie. Les origines de Noumsa remontent au combat des années 1980 sous l'apartheid. Il fut formé, en mai 1987, à partir de la fusion de quatre syndicats organisant des travailleurs de l'automobile et de la métallurgie, des mineurs et des travailleurs d'industrie liés aux précédentes. Ces syndicats avaient eux-mêmes été formés, au début des années 1970, à une époque où ils devaient opérer dans l'illégalité derrière la façade de « fonds de prévoyance ouvriers ». Des milliers de travailleurs les avaient rejoints après les grandes grèves de Durban en 1972-1973. Le syndicat des travailleurs de la métallurgie avait ainsi été constitué en 1973. Il avait ensuite aidé à la création, en 1974, d'un conseil consultatif de coordination syndicale et enfin à celle du prédécesseur de COSATU actuel, la Fédération des syndicats sud-africains, FOSATU, formée en 1979. Le COSATU aura donc chassé de ses rangs l'organisation même qui lui avait donné naissance. Comme il a été dit précédemment, Noumsa se présente lui-même comme un syndicat rouge, entre guillemets, dirigé par les travailleurs eux-mêmes. Il donne une formation intense à un noyau de dirigeants parmi des délégués syndicaux sélectionnés, la brigade Mbuyiselo Nwenda, du nom de l'ancien dirigeant de Noumsa dans l'automobile, afin de construire un cadre politique à la fois pour diriger le syndicat, mais aussi, désormais, pour promouvoir le mouvement pour le socialisme, entre guillemets, et le projet d'un parti ouvrier. Ces délégués sont envoyés dans des stages politiques où on attend d'eux qu'ils étudient les classiques marxistes, dont par exemple la brochure « Que faire ?» de Lénine, mais aussi des textes de Mao, de Staline et de représentants contemporains de diverses tendances post-marxistes ou antimondialistes comme Samir Amin, Charles Le Post, Léo Panitch ou Martha Harnecker. Récemment, on leur a aussi donné à lire l'article d'Ernest Mandel sur les partis d'avant-garde, entre guillemets. La question des mouvements sociaux est toujours abordée avec l'objectif déclaré que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui en assument la direction. Et Noumsa a la possibilité réelle de le faire grâce à son réseau d'organisations locales et aux compétences d'organisateurs de ses délégués. Conformément à son engagement de construire un « mouvement pour le socialisme » entre guillemets, et d'aider à la fondation d'un « vrai » entre guillemets, parti ouvrier, Noumsa a organisé, au début de l'année 2014, plusieurs conférences pour discuter de ces questions, ainsi que du lancement d'un « front unique » entre guillemets. Ces initiatives ont reçu une certaine publicité grâce aux renforts apportés récemment par des personnalités telles que Ronis Karasril, un vieux dirigeant du SACP et ancien responsable de Umkhonto Wesizwe, le fer de lance de la nation, l'organisation militaire de l'ANC sous l'apartheid, qui a appelé à l'abstention aux dernières élections. La grève de la métallurgie. En juillet 2014, Noumsa a dû mettre ses questions temporairement de côté, tandis qu'il dirigeait une grève illimitée de plus de 220 000 ouvriers dans la métallurgie, la sidérurgie, la construction électrique, les télécoms et quelques secteurs annexes. Cette grève, qui engloba des ouvriers d'entreprises petites et grandes, mais aussi de la Compagnie nationale d'électricité ESCOM, démarra le 1er juillet 2014 et dura 4 semaines. Il s'agissait d'une grève sur les salaires. À l'origine, la revendication de Noumsa était une augmentation de salaire de 15%. Mais avant le déclenchement de la grève, et après 2 mois de pourparlers avec CEIFSA, la Fédération des employeurs de la métallurgie, il l'avait ramené à 12%. Le syndicat exigeait également un accord bénéficiant à tous les travailleurs, qu'ils soient horaires ou mensuels, avec une clause de renégociation annuelle, ainsi que l'arrêt du recours aux agences de recrutement, sorte d'agences d'intérim qui fournissent aux employeurs des travailleurs sous un statut d'auto-entrepreneur. CEIFSA voulait pour sa part un accord de 3 ans avec une clause qui revenait de fait à ce que le syndicat renonce à recourir à la grève, et il fallut 2 semaines de grève pour qu'elle finisse par offrir 9%, mais sans renoncer à cette clause. C'était une grève ambitieuse et exceptionnelle. Elle visait en particulier à mettre au pas des PME, notoirement dirigées par des patrons de choc, payant des salaires de misère. Et cela, dans de multiples industries, de sorte qu'elle entraîna au coude à coude des travailleurs de toutes catégories. Ce fut dès le départ une grève militante qui impliqua tous les grévistes dans ses actions. Cela n'avait rien à voir avec les grèves qu'on voit en Grande-Bretagne, où elles sont de simples gestes de protestation dépassant rarement 24 heures. Ce fut une grève illimitée jusqu'à satisfaction dans tout le pays, avec des piquets de grève volants, des barrages sur les routes, des marches et des manifestations. La grève perturba l'approvisionnement en pièces chez Toyota, General Motors et Ford, les obligeant à arrêter la production dans leurs usines d'assemblage. Elle paralysa la construction des nouvelles centrales d'ESCOM. Et bien sûr, elle contraignit des milliers de PME, d'entrepôts et de chantiers à fermer. Après 4 semaines de grève, CEIFSA accepta de négocier. Elle offrit une augmentation de 10% par an pendant 3 ans pour les plus bas salaires et des rallonges de 7,5% à 10% par an pendant 3 ans pour les autres. Elle abandonna également sa clause anti-grève. Elle fit également d'autres concessions sur des questions telles que celles du préavis en cas de chômage technique, des congés de maternité, des temps de repos entre 2 équipes, etc. Le 29 juillet 2014, Noumsa signa un accord avec la CEIFSA. Mais ce n'était pas la fin de la grève, car pour toute une partie des grévistes qui étaient employés par les plus petites entreprises, elle se transforma en locoute. Ces entreprises décidèrent soudain qu'elle n'était pas représentée par la CEIFSA et donc pas liée par cet accord. Certaines étaient effectivement membres d'une organisation patronale de PME, la NEASA, et d'autres y adhérèrent. Elles déclarèrent ne pas pouvoir se permettre 10% de rallonge et mirent leurs travailleurs à la porte. Ce lockout ne dura pas moins de 6 mois. En décembre 2014, une décision du tribunal de l'emploi contraignit ces entreprises à mettre fin à leur lockout et à payer les salaires dus aux travailleurs lockoutés. Mais cette décision fut suivie de toutes sortes de mesures de rétorsion contre les travailleurs et beaucoup furent licenciés pour avoir fait grève. Mais NEASA refusait toujours les 10%. Elle fit appel contre l'extension de l'accord de la CEIFSA à ses entreprises adhérentes et obtint gain de cause. En fin de compte, Noumsa fut contraint d'accepter une rallonge de 8% pour ses membres dans les PME, pourtant les plus mal payés, au lieu des 10% obtenus dans les plus grandes entreprises. Cette grève soulève quelques questions, bien sûr. Tous les travailleurs y auront gagné une augmentation de salaire très supérieure à ce qui est imaginable en Grande-Bretagne. Mais même les mieux payés des syndiqués de Noumsa ne touchent que 5 euros de l'heure et les plus mal payés 2,50 €. Cela signifie qu'une augmentation de 10% ne représente pas tant que ça, Les meilleurs salaires dans ce secteur, pour des ouvriers qualifiés, représentent moins de la moitié du salaire minimum britannique. Or, la nourriture et les produits de base ne coûtent qu'environ 25 à 30% de moins qu'en Grande-Bretagne. Mais là n'est pas la vraie question. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi le problème avec la NEASA et ses patrons de combat n'avait pas été anticipé. Dans les faits, l'accord séparé de NUMSA avec SAFSA offrit la possibilité aux patrons de diviser les rangs des grévistes et d'utiliser l'arme du lockout contre les plus vulnérables. Quant à la NEASA, elle poursuit ses actions en justice. De sorte que, de toute évidence, NUMSA aura de nouveau à soucouper les ouvriers des PME dans un avenir proche. Mais peu importe, dès la fin juillet 2014, Irvin Jim avait déjà déclaré à la presse que son syndicat avait remporté une victoire incontestable. Ouvrez les guillemets, « Nous sommes heureux d'informer le public et le pays dans son ensemble que la deuxième proposition, celle de la CFA, est un produit de la sueur et de l'âpre combat mené par nos travailleurs pour un salaire décent. C'est le produit d'une bataille de 4 semaines qui était déterminée à en finir avec le système de salaire digne de l'apartheid colonial en vigueur dans la métallurgie. » Fermez les guillemets. Il avait ajouté qu'il s'agissait d'une victoire massue compte tenu de l'augmentation misérable proposée par les patrons avant la rupture des négociations. Sauf qu'après 2 semaines de grève, cette proposition avait été portée à 9,5% à la mi-juillet et que NUMSA avait finalement accepté tout juste 0,5% de plus après 2 semaines supplémentaires de grève. Cela dit, comme certains commentateurs le notèrent, cette grève constitua un test de loyauté et de combativité pour les membres de NUMSA, compte tenu du fait qu'au même moment, leur syndicat devait faire face par ailleurs à de multiples menaces, et le fait est qu'ils ont passé ce test haut la main. Retour au projet de parti ouvrier. NUMSA revint à son projet de parti ouvrier, entre guillemets, en août 2014, en organisant une réunion officiellement intitulée « Conférence internationale de NUMSA, construisons notre propre mouvement pour le socialisme, apprenons des luttes des autres », à laquelle il invita 81 organisations politiques de 28 pays différents. Pour la brigade politique des délégués de NUMSA, le nom donné à l'événement fut néanmoins plus prosaïque. Ouvrez les guillemets, module 4 de la formation politique marxiste-léniniste. Fermez les guillemets. Parmi les invités internationaux, toutefois, seuls 40 participèrent effectivement. Ils furent interrogés pendant une semaine par les 140 délégués et dirigeants de NUMSA présents. Ils durent répondre à des questions sur la façon dont ils étaient organisés, expliquer pourquoi et détailler ce qu'ils avaient réussi à faire pour les travailleurs, et plus généralement, faire part de leur expérience militante aux membres de NUMSA. En fait, ces représentants internationaux avaient été sélectionnés selon certains critères qui révèlent en partie le point de vue politique de la direction de NUMSA. Ils avaient été choisis parmi les partis de gauche, entre guillemets, au pouvoir, comme en Bolivie et autres pays d'Amérique du Sud. Ceux qui avaient une certaine énergie révolutionnaire, entre guillemets, catégorie dans laquelle on trouvait Die Linke pour l'Allemagne, le Front de Gauche pour la France et bien sûr Syriza pour la Grèce. Il y avait des délégués de syndicats qui avaient joué un rôle dans la mise en place de partis ouvriers, comme en Corée du Sud, à Trinité et Tobago, au Zimbabwe et en Zambie. Était également représentée une organisation d'extrême gauche du Brésil, une organisation de centre-gauche des Philippines, le Parti communiste indien marxiste et des organisations syndicales, entre autres. Le problème de NUMSA a sans doute été de savoir comment juger des prétentions de tout ce monde-là. Bien sûr, le phénomène Lula, entre guillemets, et plus récemment les phénomènes, entre guillemets, Chavez, Rousseff et Morales au Venezuela, au Brésil et en Bolivie, sont tous considérés comme des modèles par le mouvement ouvrier officiel incarné par COSATU et le SACP. Cependant, la direction de NUMSA, qui parle de son propre phénomène NUMSA, entre guillemets, en use aussi comme d'un point de départ, même si c'est pour conclure en général, mais en termes assez vagues, qu'il ne s'agit finalement que de partis bourgeois et que la classe ouvrière doit diriger elle-même en son propre nom. Reste à savoir quels enseignements ont été tirés de ce congrès international. Pour y donner suite, des représentants de NUMSA doivent aller rendre visite à diverses organisations à l'étranger. Irvin Jim a fait lui-même une tournée de conférences auprès des syndicats américains qui sera suivie par des visites à Podemos en Espagne et à Syriza en Grèce. Projet d'éducation des travailleurs. La Ford Indaba, entre guillemets, assemblée organisée par NUMSA sur les usines Ford au lendemain de son expulsion de Cosatu, le 17 novembre dernier, illustre le soin qu'apporte l'appareil du syndicat à s'expliquer devant sa base. Le but de cette assemblée était d'expliquer aux délégués ce qui venait de se produire et de répondre à leurs questions. Irvin Jim, qui était à la tribune, commença par un rappel des principes de base. Ouvrez les guillemets. Nous sommes un syndicat rouge parce que nous nous attaquons au caractère de classe du capitalisme. Les syndicats jaunes se contentent de négocier le meilleur accord pour leurs membres tout en s'accommodant du système capitaliste. Fermez les guillemets. Il rappela ensuite le préambule du programme de NUMSA qui précise que NUMSA est une organisation de lutte de classe. Ouvrez les guillemets. Nous, membres de NUMSA, nous engageons fermement à édifier une Afrique du Sud unie, libre de toute oppression et exploitation économique. Nous croyons que cet objectif ne peut être réalisé que sous la direction d'une classe ouvrière organisée et unie. Fermez les guillemets. Un des sous-titres de son exposé était « À quoi ressemble la direction de la classe ouvrière ?» suivait une explication de la conscience de classe et de la nécessité d'un parti de l'avant-garde ouvrière. Les autres sous-titres étaient les suivants. Pourquoi une direction de la classe ouvrière, la nécessité d'une théorie révolutionnaire, le contrôle démocratique des travailleurs. Et puis finalement, la discussion sur l'exclusion. Il déclara aux délégués, ouvrez les guillemets, nous devons être présents dans les structures de Cosatu et les revendiquer au nom de la classe ouvrière. Fermez les guillemets. D'autres réunions de ce type ont été organisées à travers le pays. Et NUMSA a également commencé à convoquer des réunions de son « front unique », entre guillemets, bien qu'en vérité ce qu'il entend par là soit un « front populaire », entre guillemets. Ce front unique est maintenant destiné à regrouper les « mouvements sociaux », entre guillemets, des oppositionnels de l'ANC et du SACP et ceux qui manifestent contre les déficiences des services publics, afin d'essayer d'organiser des luttes plus efficaces et mieux coordonnées. L'avenir dira si les combattants de la liberté économique, EFF, de Julius Malela, seront eux aussi inclus dans ce front unique. Pour l'instant, chacun dit ne pas y être opposé en principe, tout en s'accusant mutuellement d'être trop timide pour faire le premier pas. Il est vrai que la direction de NUMSA traite avec un certain mépris l'idée que l'EFF pourrait avoir quoi que ce soit à voir avec le marxisme-léninisme, comme il le prétend, contrairement à NUMSA qui, lui, comprend Marx et Lénine. Mais il est bien difficile de savoir ce que cela signifie réellement de la part de NUMSA. Apparemment, il s'agit d'un mélange fait d'un rejet de certains aspects du stalinisme, tout en considérant le maoïsme comme acceptable, de référence à la tradition du courant sud-africain pour la construction d'un parti ouvrier des années 1970-1980 contre les nationalistes de l'ANC-SACP à l'époque, de quelques idées déformées issues de la tradition trotskiste et d'un langage qui se veut « internationaliste ». Entre guillemets. Comme mentionné précédemment, en janvier 2015, Irvin Jim est parti pour une tournée de conférences aux États-Unis, donnant des interviews à des radios alternatives et prononçant des discours devant des sections syndicales. Il y a confirmé publiquement l'orientation « socialiste » entre guillemets de son syndicat. Tous ses discours peuvent être vus sur YouTube. Toutefois, il a expliqué à des militants du syndicat de service SEIE, ou de la santé, que bien qu'on puisse discuter du fait que la charte de la liberté soit ou non une ébauche socialiste, son adoption lors d'un congrès du peuple en 1955 a été le résultat d'une décision collective quant à la forme de société que le peuple voulait pour l'Afrique du Sud, et elle trouve encore un écho auprès des masses. Fermez les guillemets. Mais évidemment, on n'a jamais proposé à ces masses le choix d'une autre charte, entre guillemets, communiste celle-là, qui aurait pu remporter encore plus leur adhésion. Mais là encore, Jim couvre ses arrières en prétendant que le manifeste communiste et la charte de la liberté sont presque identiques. Espérons que ses disciples liront le manifeste communiste eux-mêmes. En fait, Irvin Jim a même été plus explicite sur son allégeance à la charte de la liberté quand il a lancé son front unique, en disant, ouvrez les guillemets, « Notre appel à un front unique de la classe ouvrière et à un mouvement pour le socialisme est précisément une façon de défendre le programme national démocratique de la charte de la liberté qui reste le seul programme capable de jeter les bases d'une transformation socialiste de la société sud-africaine. » Fermez les guillemets. Cela montre les limites majeures du phénomène « Nomsa », entre guillemets. La charte de la liberté n'offre en fait qu'une perspective nationaliste, pas celle de l'internationalisme prolétarien auquel même Jim fait parfois allusion. Elle ne fait que ramener la classe ouvrière à la théorie de la révolution par étapes et du socialisme dans un seul pays, le programme stalinien que les partis communistes des pays sous-développés ont utilisé pour tromper la classe ouvrière et les masses pauvres depuis 90 ans. Bien sûr, pour les travailleurs britanniques, y compris pour ceux d'entre eux qui militent à l'extrême gauche, le « syndicalisme rouge » entre guillemets de Nomsa, sans parler de son projet de parti ouvrier, peut sembler appartenir à une autre planète. Mais en Afrique du Sud, malgré ses limites, cela constitue une confirmation du fait que l'esprit de lutte des années 1980 est encore bien vivant. Pour Nomsa, cependant, l'avenir ne s'annonce pas simple. En premier lieu, parce que la direction actuelle de COSATU est largement inféodée au gouvernement corrompu et assassin de Jacob Zuma. Et les travailleurs ont déjà vu jusqu'où il est prêt à aller pour protéger ses intérêts et ceux de sa clientèle. Le massacre des mineurs grévistes de Lonmin en août 2012 en est peut-être le pire exemple. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Les militants et dirigeants de Nomsa peuvent s'attendre, et ils le savent, à ce que leurs adversaires ne reculent devant rien pour les arrêter dans leur entreprise. C'est ce qu'illustre par exemple l'assassinat de sang-froid de 3 délégués de Nomsa en août dernier, près de leur domicile dans le KwaZulu-Natal. On montre déjà du doigt les membres de la commission exécutive de COSATU qui ont suscité la création d'un syndicat de la métallurgie rivale de Nomsa en utilisant ostensiblement d'anciens cadres de ce syndicat passés en dissidence, tel Cédric Gina comme homme de paille. Lorsqu'on a interrogé Irvin Jim sur les menaces qui pouvaient peser sur sa vie, il a répondu sans ambiguïté. Ouvrez les guillemets. Ils peuvent s'attaquer à moi comme individu, mais pas à la classe ouvrière. C'est elle qui a le nombre. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'élever son niveau de conscience face aux intérêts dominants, c'est-à-dire leur pillage, essentiellement, et leur gaspillage des ressources. Je pense que nous devrions tous être prêts à vivre pour faire avancer l'humanité plutôt que pour favoriser la cupidité. Je pense que s'il me tue, du moment que j'exprime les intérêts de la classe ouvrière, celle-ci continuera le combat. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Fermez les guillemets. La situation peut être lourde de dangers pour ceux qui choisissent de s'attaquer au pouvoir et au système, mais aussi riche en possibilités, précisément en raison de l'évolution politique qui s'est produite au sein et autour de Nomsa et qui l'a amené au point où il en est aujourd'hui. Vers le parti dont a besoin la classe ouvrière, Nomsa fera-t-il ce qu'il a dit ? Lancera-t-il un parti ouvrier avec l'intention de mener une lutte politique sérieuse contre l'alliance ANC-SACP et pas seulement sur le plan électoral ? Les discussions au sein de NUMSA pour savoir si le nouveau parti doit être un parti de masse ou un parti d'avant-garde sont-elles significatives, c'est-à-dire basées sur une réelle compréhension du léninisme auquel ses dirigeants disent se référer, ou bien n'est-ce qu'une abstraction ? NUMSA se laissera-t-il influencer et détourner de ses objectifs par ses relations avec certains réformistes des plus abjects, auprès de qui sa direction a choisi d'apprendre, entre guillemets, ou ceux qui prétendent avoir des références révolutionnaires, mais ne sont pas ce qu'ils disent être. Il est impossible de ne pas être tenté de préjuger négativement de l'avenir du mouvement NUMSA. Cela tient à ses choix d'alliance politique et à sa réticence à s'engager avec des tendances révolutionnaires comme le trotskisme, sinon dans les formes dérivées qu'il revêt en Afrique du Sud, telles que le WASP, Parti ouvrier et socialiste, dont la politique reflète celle du Socialist Party britannique, entre autres. Pour l'instant, cependant, Irvin Jim continue de donner plus ou moins les bonnes réponses, et c'est en soi une source d'inspiration pour les militants ouvriers potentiels. Par exemple, lorsqu'on lui a demandé dans une interview sur Real News, une chaîne américaine indépendante d'information de gauche, si NUMSA organiserait une nouvelle confédération syndicale, il a répondu, ouvrez les guillemets, « Une chose sur laquelle nous ne ferons pas marche arrière, c'est la poursuite de la lutte pour l'union des travailleurs sud-africains, parce qu'ils doivent continuer à être une boussole, car seule la classe ouvrière est capable de mener la révolution à sa conclusion logique. Elle est la plus exploitée, et si elle a un instrument politique clair, un parti d'avant-garde qui élève son niveau de conscience au niveau de celui de la classe qui l'exploite, cette classe ouvrière peut être prête pour la révolution. » Fermez les guillemets. Il a également ajouté « Nous demandons à nos membres de rejoindre le mouvement de la classe ouvrière internationale. Nous savons que ce n'est pas localement que nous avons affaire au capital et au capitalisme, mais internationalement. » Fermez les guillemets. La direction de NUMSA a pris un cap exaltant et courageux, et il est temps que cela arrive en Afrique du Sud. Ce pays a une classe ouvrière organisée, politisée et combative qui mérite bien mieux que les dirigeants corrompus, ridicules et criminels qui siègent au gouvernement et dans les directions de l'ANC, du SACP et de COSATU. L'initiative de NUMSA conduira-t-elle enfin à l'émergence de l'instrument politique dont la classe ouvrière sud-africaine a besoin, un parti révolutionnaire se fixant comme objectif de renverser le capitalisme, non seulement en Afrique du Sud, mais à l'échelle internationale? L'avenir le dira, mais au moins, en soulevant la nécessité pour la classe ouvrière de construire sa propre organisation politique, il montre la bonne direction.